Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui un éleveur qui est aussi un ami, Hubert Honoré. Bonjour Hubert.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, très bien. Vous êtes en direct de Normandie?
Absolument pas. Je suis arrivé à Vaison-la-Romaine, une cité romaine comme son nom l'indique. Et voilà, donc je passe la plupart du temps maintenant dans le Vaucluse. Et je suis pas très loin de Calais d'ailleurs.
Est-ce à dire qu'après avoir passé quelques années sous la pluie normande, que nous adorons, hein, par ailleurs, vous avez cherché un peu de soleil?
Oui, ça c'est beaucoup grâce à Claire qui adore cette région et. Et en fin de compte, on découvre une nouvelle vie, de nouveaux parfums, et vraiment, c'est très agréable.
Alors, au sommaire de cette émission, on vous a invité, évidemment, pour parler de Facteur Cheval qui a gagné le Dubai Turf le samedi à Dubaï. Nous avons également avec nous aujourd'hui Adeline. Bonjour Adeline.
Bonjour.
Adrien.
Bonjour.
Et nous rejoindrons en cours d'émission Franco Raimondi pour justement revenir sur cette grande réunion internationale du week-end dernier et Christopher Gamiche pour faire un point sur l'obstacle en France. Mais comme je vous le disais, on va d'abord parler de Facteur Cheval. Adrien est notre invité. Un lien avec le champion Jérôme Rénine.
Alors, bonjour à tous, il y a cet exercice difficile qui consiste à acheter des foals pour les revendre. Et Hubert, si je ne me trompe pas, vous avez sélectionné Facteur Cheval aux ventes lorsqu'il était foal pour un groupe d'investisseurs, c'est ça?
Oui, alors bien sûr, j'ai acheté pour un groupe d'investisseurs et moi j'avais gardé la moitié de ces investissements. Donc, la plupart du temps, quand j'achète des foals, je dépasse rarement 30 ou 40 000 euros. Et là, je me suis laissé un peu emporter parce que le cheval était très beau, il se déplaçait bien. Et j'étais avec un courtier qui s'appelle Alessandro Marconi, qui est devenu un ami maintenant. Et donc, en voyant ce cheval, on s'est dit, on a été un peu au-delà de ce qui est prévu parce qu'on l'a acheté 170 000 euros environ. Et c'était bien au-delà de ce que d'habitude j'investis, quoi.
Je veux dire, il est aussi d'un très bon aura parce que les Mad Kraken, c'est un super élevage. Ils ont essayé élevé Best Solution il n'y a pas longtemps. Il venait pas de n'importe où, quoi.
Oui, certainement. Et puis les chevaux en général à Newmarket, on a quand même une sélection de chevaux qui sont quand même très bien nés. Il n'est pas passé dans les derniers jours, il est passé dans les deux premiers jours, je pense. Et voilà, donc c'était un investissement important. Et c'est vrai qu'une fois que je l'ai eu acheté, on l'a ramené à la maison. Et le cheval était quand même pas facile du tout. Il avait un tempérament assez fougueux. Et voilà, donc. L'histoire, c'est ça, c'est que ça a commencé bien. Après, on a eu pas mal de petits déboires. Si vous voulez, je peux vous les raconter.
Oui, bien
Donc.
sûr, parce qu'en vous entendant, on comprend que c'est à la fois c'est une superbe histoire parce qu'on devient un grand groupe à l'international, c'est toujours génial, mais en même temps, on sent que c'est quand même une histoire contrastée, hein, pour vous.
C'était très contrasté dans le sens où quand il est arrivé, le cheval était bien. On le mettait dans, il devait passer normalement. L'idée, c'était de repasser dans les ventes spéciales de l'année d'après. Mais le cheval, s'énervait régulièrement dans le box et tapait tout le temps avec ses genoux dans la porte du box. Donc, il y avait une poche qui se formait et c'était la grande angoisse parce que même si c'était pas très grave, il fallait quand même que ça disparaisse. Donc, on ponctionnait, mais ça revenait régulièrement et c'était vraiment très 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 perturbant. Malgré tout, on arrive tout à régulariser ça. Le cheval était quand même caractériel, ce que vous disiez. À l'époque, que j'ai toujours, c'est toujours quelqu'un qui travaille plus pour moi, mais qui est souvent présent, qui s'appelle Laurent Jouraud, qui a fait un super travail parce qu'il connaissait bien les chevaux. Voilà, donc ce cheval doit passer en vente. Vous savez, c'était l'époque du Covid. Les ventes ont été reportées en septembre. Et qu'est-ce qui se passe quelques jours avant les ventes? Le cheval attrape, il était seul dans son box, il attrape une forme de ballon de rugby sur la cuisse gauche, qui était vraiment un hématome énorme. Je ne sais pas comment résoudre ça. Le vétérinaire me dit gardez-le au box, on va lui faire des massages, mais il est quand même resté 15 jours au box avant de passer en vente. Et le fait de le passer en vente, on a essayé de réduire un peu l'hématome. Le cheval était sous sédatif, on ne peut pas dire qu'il était dans sa robe de mariée. On le passe en vente et à ce moment-là, bien sûr, les acheteurs sont des professionnels et on le rachète à 120 000 euros. Mais en fin de compte, on le rachète, il est marqué à la Blostock, mais c'est parce que dans l'énervement du fait que je voulais pas que le cheval soit marqué racheté, j'ai créé cette société qui n'existe pas, qui s'appelle As Soon As Possible Blostock. Et voilà comment c'est venu. Et voilà. Donc, retour à la maison en novembre, un débourrage qui s'est mal passé avec la personne qui les débourrait habituellement, le cheval était agité, on n'y arrivait pas, etc. Je téléphone à Blondeau, il me dit « Oui, ben à ce moment-là, vous ne touchez plus à rien, je le reprends début janvier, et il fait un travail remarquable, et je le confie à ce moment-là à Jennifer Pardano, qui est quelqu'un qui est vraiment très très qualifié pour débourrer les chevaux, pas pour les débourrer, mais pour les pré-entraîner, et on envisage la brise-up au mois de mai à Deauville.
L'objectif, Hubert, c'était toujours de vendre, en fait.
Bien sûr, toujours. Il fallait que je m'en débarrasse. C'était quand même un investissement important. J'en avais la moitié et j'avais pas les moyens de pouvoir garder un cheval comme ça éternellement, sachant que même les chevaux qui sont, comment dirais-je, qui sont moyens, on est obligé de les garder quelquefois parce que personne n'en veut. Alors voilà. Donc il doit passer aux ventes du mois de mai et manque de peau, les ventes ont été décalées à Doncaster. Et Jennifer me dit. Moi, je peux pas passer 8 jours juste en Angleterre pour un seul cheval. J'ai toute mon écurie. Il va falloir trouver une autre solution. Alors, c'est pas grave. Étant donné qu'il nous a déjà donné pas mal de problèmes, on se rabat sur les brise-up de juillet. Mais entre-temps, le cheval travaille. Il se fait un chip. Et on découvre un chip dans un boulet. Retour à l'envoyeur, c'est-à-dire chez moi. On lui enlève le chip. Je me dis maintenant, on va le castrer parce que de toute façon, ça fera un magnifique cheval de selle et on pourra en faire un beau cheval de balade. Et si jamais ça ne colle pas.
Un peu cher.
Voilà. Donc, il revient là. Le cheval reprend au bout de 3 mois. Il retourne chez Pardano. Et comme j'avais des liens très étroits avec Jérôme, je lui dis, il faudrait que vous preniez ce cheval à l'essai. Et il accepte. Avec l'insistance de Jennifer, parce que comme elle le connaissait, et le cheval, et Jérôme, il a accepté de le prendre. Il a été surpris par la petite poche qu'il avait sur le genou, parce qu'il l'a toujours gardé, et en disant, si jamais ça explose, ça va faire des dégâts. Mais bon, le cheval travaille bien, il va en progression, et il doit débuter en janvier de son année, 2-3 ans. Et là, rebelote, il le met dans les boîtes, et là, il explose son jockey, son lad, pardon, il l'envoie à l'hôpital. Le lendemain, Jérôme réessaye en lui faisant un calmant, etc. Rebelote encore, il envoie un deuxième lad à l'hôpital. Alors,
ça commençait à faire beaucoup, là.
Oui, ça faisait beaucoup. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, moi, j'avais déjà même envisagé de me dire, s'il ne rentre pas dans les boîtes, je vais le mettre en obstacle chez Louisa Cadbury, par exemple. Et parce que là, il y a des départs aux élastiques. Et donc, je reprends le cheval, on l'envoie chez Blondeau, je vais le voir 2-3 fois, et là, ça va, je reprends le cheval ensuite, et le renvoie ensuite à Calas. Et là, il repart là-bas, et Jérôme en est très content, et le cheval doit débuter le 5 avril, je crois, quelque chose comme ça, de son année de 3 ans. Et il gagne facilement un lot d'inédits. Et quand les lots d'inédits, on ne connaît pas la valeur des chevaux, ça peut être des très très bons chevaux, comme nous. Et à ce moment-là, on nous fait des offres. Et donc, j'en parle avec les autres investisseurs, donc Cheval Invest et puis un ou deux autres personnes. Et on accepte le deal. Et le cheval, après, court un mois plus tard à Lyon, il gagne, même en faisant un écart. Et là, il a le Rising Star de JDG. Il recourt un mois plus tard, il regagne. Et ensuite, il gagne sa liste au mois de juillet à Chantilly. Voilà. Donc, alors voilà, je vais vous dire pourquoi il s'appelle Facteur Cheval. Parce que j'aime bien que les chevaux aient une signification au nom du cheval. Alors, Facteur Cheval, avec Claire, on passait régulièrement sur l'autoroute et elle avait visité déjà le palais idéal de Facteur Cheval. Et Facteur Cheval, c'était donc un facteur qui s'appelle Ferdinand Cheval, et il était obnubilé de vouloir construire avec les pierres qu'il rencontrait sur son chemin, parce qu'il faisait toutes ses tournées à pied, de construire un pal idéal, et il a mis 30 ans pour le faire, et maintenant c'est devenu un monument reconnu, pas par l'UNESCO, mais il est qui est vraiment très très bien reconnu, et je vous invite à aller le visiter, c'est dans la Drôme. Et lui, ça, c'était un homme qui était vraiment un peu autiste, mais il avait cette obsession, c'était de construire son palais. Donc, je trouve que Facteur Cheval, ça allait bien, parce que le cheval est comme vous dites, il va jusqu'au bout. Il est, comme disait Jérôme, c'est un cheval qui ne lâche rien. Et je pense que le Facteur Cheval, le vrai Facteur Cheval, devait être un peu comme ça. Il est allé jusqu'au bout pour faire ce qu'il avait décidé.
Quand vous éleviez, quand vous achetiez des mères pour élever, est-ce que ça faisait partie de vos critères de choisir, par exemple, des futures poulinières pour votre propre haras qui étaient issus de grands élevages, ou est-ce que ça n'entrait pas en compte de votre critère de sélection?
Moi, j'étais plutôt... comment dirais-je, c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup avec, j'ai accueilli pendant très longtemps les juments Shadwell qui venaient à ce moment-là à Leiden Time et les juments de Gainsborough, et en même temps j'ai travaillé beaucoup avec eux dans les années 80-90 et j'accueillais beaucoup de chevaux, j'étais quand même un prestataire de service avant tout, et j'ai pu bénéficier de quelques juments que j'ai pu garder et qui m'ont permis d'avoir des chevaux de vente intéressants. Et j'ai beaucoup travaillé avec des clients, comme on appelle ça, des clients anglais, et qui me mettaient régulièrement des chevaux et pour lesquels j'ai vendu, par exemple, Sweet Lady, j'ai vendu des poulains de Siouni dans des ventes spéciales et autres. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir eu ce panel de bons clients pour faire un travail intéressant.
Alors précisément, toute cette dimension internationale, pas seulement la victoire de Facteur Cheval à Dubaï, mais également ce que vous évoquez, c'était aussi une de vos marques de fabrique. Parmi vos clients, il y avait de nombreux étrangers, notamment des Anglais. C'était quelque chose que, on sait que vous aimez voyager, vous parlez anglais, vous aimez cette dimension internationale. C'était quelque chose pour vous, je pense à des gens comme Christopher Wright, ou des propriétaires comme ça. C'est quelque chose que vous appréciez particulièrement.
Oui, beaucoup. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que maintenant, enfin, tous les jeunes font des voyages un peu à l'étranger, mais quand j'ai débuté en 70, je faisais partie des deux ou trois rares personnes qui partaient en Amérique, et j'avais voyagé pour aller aux États-Unis. J'avais voyagé dans un avion à hélice avec les chevaux devant moi, et ça m'a même pris 22 heures pour atteindre New York. Et c'était marrant. Et ça a pris pratiquement autant de temps pour rejoindre New York, le Kentucky, avec des chauffeurs redneck qui ne me comprenaient pas, alors que je pensais que j'arrivais à parler anglais correctement.
Vous voyagez avec des chevaux de course ou des juments pour la saillie?
Oh, il y avait un peu de tout. C'était plutôt des juments pour la saillie. Ça allait au Kentucky, et c'est là où je suis allé. J'ai passé un an et demi à Claiborne. À Claiborne Farm, qui était vraiment au cœur du Kentucky, au cœur de ce qu'on appelle l'Amérique profonde.
Et surtout à cette époque-là, Claiborne était à son apogée. Hein. C'était l'apogée.
Absolument, de absolument. C'était l'époque de Nasrullah, de Bull Ruler, de Nijinsky et tous ces chevaux-là. Donc, et de Damascus. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, parce que là, je suis en train de parler d'avant.
Damascus, oui, bien sûr.
Mais oui. C'est vrai que c'était une expérience formidable. Et quand je suis revenu en France, je pensais trouver un travail facilement. Et puis, j'ai eu cette chance d'arriver à OMEL, où je pensais passer 6 mois, et j'ai passé 40 ans, ou 50 ans même. On ne peut pas écrire l'histoire.
Il y a un trou dans... En fait, moi, je connaissais le début de l'histoire, l'enfant du Nord, qui est passé par les trotteurs. Et il y a un trou entre les trotteurs et les États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous entre les trotteurs et les États-Unis?
Entre les trotteurs et les États-Unis, je ne savais pas trop où j'en étais, donc j'ai fait des petits boulots entre-temps. Et à un moment donné, je suis parti à Newmarket, et je suis allé travailler à Medlerstud, qui a été racheté par la suite par Kirsten Rousing. Et le seul mot que je savais dire en anglais, c'était breakfast. Mais ça m'a pas.
C'était bien pour commencer la journée.
Oui. Et voilà, donc c'est parti de là. Et puis je suis resté 6 mois à Medlerstud et à Newmarket, et c'est là où j'ai découvert un peu les chevaux. Comme il y avait des avions qui partaient avec les chevaux pour aller jusqu'au Kentucky après les ventes de décembre, j'en ai profité pour monter dans un de ces avions et arriver à Claiborne où j'étais bien accueilli. Non, mais je faisais partie de l'équipe, donc j'étais ce qu'on appelait un shit shaveler, un remueur de crottin comme les autres, et en remuant du crottin un peu partout, en France, en Irlande, en Angleterre, et on arrive à parler anglais et arriver à comprendre un peu ce qui se passe autour des chevaux, quoi.
Et est-ce que c'est vrai que plus tard, vous avez bossé aussi un peu dans le golf à Abu Dhabi, où mes informations sont erronées?
Ah, c'est bien, vous suivez tout, là. C'est incroyable. Ah, bah, alors, pourquoi je suis parti? Parce que j'avais créé une société qui s'appelait France Foal Investissement, FFI, ça vous dit quelque chose?
Oui.
J'avais fait des trucs formidables, parce que j'avais fait du pinooking extraordinaire. J'avais acheté des fils de Aonora, et j'avais multiplié par 4 le prix d'achat, et j'ai crié au génie, je suis meilleur que tout le monde, je vais y arriver mieux que tout le monde, et ça va être superbe et tout. Et on a continué l'année d'après, c'était un petit peu moins bien, et l'année d'après c'était encore moins bien. Et là je me suis dit, bon, il va falloir que je trouve quelque chose, parce que je me suis quand même pas mal endetté auprès des banques, et il faut trouver une solution. Et j'ai eu cette opportunité de partir aux Émirats, mais je pensais que j'allais être simplement consultant et passer faire des allers-retours, mais pas du tout. Ils me prenaient pour toute l'année, et je passais 6 mois et demi de l'année là-bas, et le reste du temps, je revenais ici. Et ça m'a fait un bol d'oxygène et d'air. Et en même temps, j'ai découvert ce qu'était Dubaï, ce qu'étaient les courses d'arabes, et tout ce qui se passait dans le Golfe. C'était vraiment, au point de vue historique, c'était quand même assez intéressant. Donc, j'y ai passé 4 années. Et ensuite, quand je suis revenu, je suis resté un peu plus prudent. Et j'ai continué d'investir encore. Et voilà. Mais toujours avec l'idée d'être prudent. Et mon côté, peut-être gars du Nord, je ne sais pas, mais c'est que quand on a une opportunité, ben, il faut la vendre. Et je regrette pour certaines choses, parce que j'ai eu des parts de Siouni ou de Lope de Vega que j'ai peut-être vendu un peu précipitamment. Et je m'en veux un petit peu de ça, mais en même temps,
Et facteur cheval, vous vous dites que vous l'avez vendu précipitamment aussi, ou bah, vous avez donné tellement de soucis que...
J'aurais pu attendre 2 courses supplémentaires, ça aurait été... Ben, après, on vous dit, oui, mais si le cheval se blesse, bien sûr, si le cheval se blesse, mais là, c'est un peu précipitamment. Mais en même temps, je suis super ravi pour Jérôme, je suis content que Jérôme ait pu l'accepter au départ, parce qu'en plus, ça, il fait un travail remarquable. Et j'ai connu Jérôme au tout début, quand il n'était même pas entraîneur, parce que son père venait me voir régulièrement à Deauville, parce qu'il était un fanatique d'Aaron Duke, et j'avais cet étalon-là à l'époque. Et c'est vrai que je ne calculais pas Jérôme quand il était avec son père, et quand on s'est rencontrés un peu plus tard, je lui ai dit, ça serait bien que vous preniez un cheval, et il a entraîné Chicago May, qui est la mère de Chipolata, qui Chipolata est la mère de World Chimes, et c'était un homme à l'époque, il n'avait pas encore sa licence, mais il fait un travail remarquable, et je suis content d'avoir été avec lui dès le départ, et j'avoue qu'il a un calme et une froideur et une vision surtout, une vision extraordinaire. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui l'ont, du moins en France, et le fait qu'il ait cette pondération à pouvoir... comment on appelle ça, ça veut dire un mot anglais, forecast, mais d'aller si loin, quand il a un cheval, il sait ce qu'il va faire avec, quoi.
Oui, il se projette, c'est vraiment...
Voilà, il se projette vraiment très bien. Et franchement, ce qu'il a fait là, c'est extraordinaire, parce que courir un cheval qui n'avait pas fait de rentrée spécialement, mais c'est vraiment très très bien. Et c'est vrai que ce cheval a un courage monstre, et il le montre à chaque fois.
Hubert, pour terminer cette première partie du podcast que nous avons la chance de passer avec vous, je voulais vous demander, justement, vous parliez de vos décennies d'expérience dans le monde de l'élevage français, notamment l'élevage commercial. Quel regard vous portez justement sur les années qui se sont écoulées, sur la situation actuelle de l'élevage commercial en France, et peut-être, pourquoi pas, qu'est-ce que vous pensez justement de son avenir et de ses perspectives?
Non, mais je suis pas devin. Je peux vous dire ce que je vois depuis que je travaille dans l'élevage, c'est que si, je ne sais pas si vous vous souvenez de David Powell, qui disait déjà que avec les juments qui étaient saillis à l'époque, il y avait 60 juments par étalon, il y avait déjà un problème de consanguinité et que les familles se rejoignaient très vite. Alors je me demande ce qui va se passer quand on voit que les étalons comme Justify saillissent 422 juments. Comment à terme ça va se venir. J'ai l'impression qu'on est un peu comme dans dans la société actuelle. On fonce, et on sait qu'il y a un mur devant, mais en attendant, on n'arrête pas, quoi. Et je veux dire que le fait d'avoir des étalons qui saillissent énormément de juments, c'est bien pour les investisseurs, bien sûr, mais est-ce qu'on ne va pas arriver à un phénomène de saturation qui fait que est-ce qu'on ne va pas détruire un peu l'outil avec lequel on a commencé à travailler?
Et la place de la France sur l'échiquier international, justement, par rapport, vous avez commencé dans les années 70, aujourd'hui, vous diriez qu'on en est où?
Alors, je pense qu'il y a eu des très bons moments, l'année 70, quand on pouvait revendre des chevaux facilement aux Américains, et puis après, ça s'est délaissé. Et je pense que maintenant, la France a retrouvé un niveau élevé grâce à des investisseurs. Alors, il y a des investisseurs privés comme Lagacan, le fait qu'il ait mis des étalons sur le marché, ça a commencé avec Chiuni, après Zarac, et ça c'est vraiment un plus parce qu'on sait que ces gens-là vont pas vendre leurs étalons, donc ils vont les garder en France et ça va venir des investisseurs étrangers. En plus de ça, il y a d'autres personnes qui se sont groupées et qui font du très très bon travail. Je pense à Harald Beaumont, je pense à des gens comme ça. Je pense que si les jeunes se sont beaucoup plus les jeunes qui ont fait des stages à l'étranger sont vraiment techniquement aussi bons que les Irlandais ou que les Anglais. Et je pense que la France, maintenant, elle a un niveau que je mettrais sur le même pied d'égalité avec l'Angleterre et l'Irlande.
Merci beaucoup, Hubert. Alors, je dis à nos auditeurs qui ont sans doute été très intéressés par tout ce que vous nous avez dit que cet entretien va se prolonger dans les colonnes de Jour des Galops puisque vous avez une interview plus longue réalisée avec Adrien Cugnas à retrouver sur jourdegalops.com. Bon soleil à Maisons-la-Romaine, Hubert.
Oui.
Et à bientôt à Deauville quand même.
Oui, je viendrai à Deauville prochainement, mais on se reverra bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Merci. De notre côté, nous tournons une rapide page musicale d'environ 2 secondes et demie et on retrouve Franco Raimondi et Christopher Gallo. Retour à Dubaï avec vous cette fois-ci, Franco Raimondi. On a parlé avec Hubert Honoré de facteur cheval. Je voudrais vous entendre également, Franco, sur la Dubaï World Cup qui était quand même le gros morceau de la soirée de samedi.
C'était le gros morceau. On a vu un gagnant très impressionnant, un cheval qui était un peu disparu, mais qu'aux États-Unis, il était bon. Il était le grand favori de la Breeders' Cup d'Hautmail.
Laurel River, un cheval de jeune monte pas, sinon de Kalea, voilà. Succession de Kalea Doula.
Voilà, et il était à l'époque chez Bob Buffer, scratché par les vétérinaires au dernier moment pour un problème en pied. Et voilà, on l'a retrouvé, on croyait disparu, et on l'a retrouvé à Dubaï, chez un jeune professionnel, Bupat Semar, qui a pris les relais de son oncle dans l'historique écurie des Abel Stable. Qui sert en plein centre-ville.
Bupat Semar, c'est un nom qui sonne indien, plutôt.
Voilà.
Oui, c'est ça.
Il est indien, mais il est formé, disons, un peu à Dubaï, un peu aux États-Unis. Il a fait beaucoup d'expériences. Il a pris le relais de son oncle dans cette écurie historique.
C'était Satish, hein, son oncle.
Et Satish.
Si mes souvenirs sont bons.
Et lui, c'est un jeune entraîneur qui a eu beaucoup de réussite, champion des entraîneurs à Dubaï. Et voilà, il a réussi les miracles de retrouver ce cheval.
Et là, donc, il a gagné avec ce Laurel River, Franco, qui donc porte la casaque de feu Khalid Abdullah, et qui est entraîné donc à Dubaï même.
À Dubaï, et ça, c'est une chose importante, c'est à... disons un peu, jouer à domicile est devenu de plus en plus important dans cette course-là. Et il a gagné avec une marge record dans l'hippodrome de Meydan. Il y avait eu un gagnant de 14 longueurs à Nadal Sheba, mais Nadal Sheba, c'était un dirt qui creusait beaucoup les écarts. Et là, bon, il a eu l'avantage d'aller devant. Il y avait un seul point d'interrogation, c'était la tenue. Et enfin, Enfin, il a tenu, il a gagné de toute ligne droite, en devançant les deux chevaux qui ont terminé sur la même ligne dans la Saudi Cup. Et donc là, il y a un peu une question pour l'avenir. Si les coups de deux Saudi Cup, Dubai World Cup, sera jouable, surtout pour les chevaux qui arrivent de, pas de la, du golf, mais qui vient de, des États-Unis ou du Japon.
Oui, parce qu'en l'occurrence, les deux chevaux dont vous parlez, hein, qui ont fini deuxième et troisième de la Dubai World Cup, c'est d'une part un japonais, hein, Ushba Tezoro, et d'autre voilà. part Senior Buscador, qui lui vient des États-Unis. Donc ça fait le voyage, plus voilà. une grosse course en Saoudi, plus une grosse course à Dubaï. Ça commence à faire beaucoup.
C'est les voyages, plus une course dure à Riyad, plus 4 semaines dans le golf. Et normalement, les chevaux, à la deuxième course après un long voyage, bon, ils sont un peu en baisse de régime. Ça, c'est un peu l'explication. On s'est posé cette question avant et on a eu la confirmation en piste. Mais lui, il est un bon gagnant de la World Cup.
Très bien, au programme de la soirée, il y avait également le derby, non pas le derby d'Epsom, non pas le derby d'Irlande, non pas le derby italien, mais le derby des Émirats Arabes Unis. C'est un sport en tant que tel remporté par un cheval japonais.
Voilà, par un cheval japonais, Forever Young, un vaincu, candidat au Kentucky Derby. Bon, c'est possible, il est assez estimé par les analystes américains. Il faut le voir dans une course avant partant, comme c'est le Kentucky Derby, et face aux Américains. S'il arrive à s'en sortir avec les projections du dirt dans la figure et tout ça, c'est jouable. Un peu difficile, on a vu dans le Florida Derby un très bon cheval qui était d'ailleurs les champions de 2 ans, Fierceness. Il a très bien gagné pour Mike Ripple, tout en battant un lot assez moyen. La semaine prochaine, le samedi prochain, on va voir un autre trial très important au Kentucky avec Sierra Leone qui est un autre tout bon. Mais voilà, il mérite d'aller à Churchill Downs, ça c'est sûr.
Oui, lui aussi, c'est un sacré globe-trotteur, parti du Japon, préparatoire dans le golf et finale dans le Kentucky.
Mais là, il a eu les deux courses, comme les chevaux qui ont couru la World Cup, mais paraît-il qu'il avait mal voyagé pour Riyad et il a amélioré sa condition et surtout, c'était 1900 mètres, plus dans ses cordes que le mile du Saudi Derby.
Parfait. Et un mot également de la Shima Classic qui se courait comme traditionnellement juste avant le Dubai World Cup avec la victoire enfin d'un local, d'un bleu de voilà. Godolphin.
D'un bleu Godolphin. Moi, je suis très déçu. C'était la plus belle course, bon, peut-être la plus belle course de la saison. Avec les matchs entre Auguste Rodin, qui n'a presque pas couru, et la japonaise Liberty
Island.
Voilà, et la course s'est transformée dans une course très tactique. Les trois chevaux qui sont allés devant, ils sont restés. La pauvre Liberty Island à 500 mètres du poteau avait une dizaine de longueurs à refaire, donc mission impossible sur des chevaux qui enfin ils étaient là et deuxième de Rebels Romance qui est un cheval plus que correct, il y a Christian Demuro qui est pauvre a monté 3 chevaux qui ont terminé deuxième dans
Et oui, 3 fois 2e. Et du côté des Français, ben, ça a été un peu compliqué. Junko, ouais. 7e. Simkemil, 9e.
Oui, non, mais course très tactique. Et voilà, c'est tout simple. Et bon, On peut être un peu inquiet pour Auguste Rodin, qui sait un jour oui et un jour non, mais voilà, d'après son entraîneur, c'est comme si la course n'a pas été courue.
Très bien, et je m'en voudrais, ma chère Adeline, de terminer cette séquence sur Dubaï sans vous laisser la parole, noblement, pour dire un mot de la Kayla Classic.
Qui
ouvre la réunion de la World Cup et qui est le grand groupe 1 réservé au pur sang arabe, autant dire votre domaine de spécialité.
Oula,
je suis moins sûr. Non, un domaine que vous connaissez bien.
Victoire saoudienne par un cheval qui venait de gagner justement à Riyad le groupe 1 sur le gazon. Là, c'était sur le dirt. Un cheval qui est quasiment, enfin qui n'est pas invaincu, mais je crois qu'il a été battu qu'une seule fois, une espèce de monstre. On en avait déjà parlé à l'occasion de d'un podcast sur la Saudi Cup. Voilà, on avait un cheval français, Hadid Carrère, qui a quasiment jamais donné d'espoir à ses preneurs selon la formule consacrée. Enfin, je pense que c'est Thomas Fourcier a jamais trop retrouvé le cheval qu'il était plus jeune. Il a eu des combats difficiles justement en Arabie Saoudite et voilà.
Et son jockey n'a pas insisté, mais comme les officiels du Dubai Racing Club sont un peu cruels, ils affichent 53 longueurs et demie d'écart avec.
C'est-à-dire que sur le dirt et sur les courses de pur sang arabe, les écarts se creusent assez nettement.
Oui, et puis quand l'affaire est jouée, ça ne sert à rien non plus de faire mal à un cheval. Quand c'est fini, c'est fini, oui, exactement. Ouais. Ça ne sert à rien de faire mal à un cheval. Et c'est bien justement de les respecter. Merci Adeline, on change complètement d'unité. Ah pardon, Franco.
Il y a un cheval français qui mérite quand même un
oui,
mot.
Oui, la Gold Cup.
Voilà, c'est un Naïr qui a vraiment fait la course de sa vie dans la...
Dis-le, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui est deuxième de la Gold Cup, voilà. Tower of London.
Voilà, il a fait vraiment la course de sa vie. Et il est battu par un cheval comme Tower of London qui sera un bon cheval, mais pas seulement sur les longues distances, je pense. Donc bravo Al-Nahir,
très bien, on devrait revoir en France, je pense bientôt, parce qu'il n'aura pas forcément 150 000 engagements sur des longues distances à l'étranger. Enfin, peut-être ils iront à Ascot, peut-être avec lui.
4000 mètres, je crois pas.
Un peu long peut-être. Un peu extrême. 4000 mètres, c'est plus le sport. Et là, vraiment, Franco, je vous remercie. 4000 mètres, on est plus dans le sport.
Non, on garde Franco pour Auteuil.
On garde Franco pour Auteuil. Que nous allons évoquer à présent, puisque oui, chers amateurs, fans d'obstacles, votre maître à tous est là, Christophe Paganich. Ça va,
Christophe? Bonjour, bonjour à tous. Oui, oui, ça va.
Ça vous va comme introduction?
Ouais, je me définirais pas comme le maître.
Alors, nous allons faire un point sur la saison d'obstacles. Quand on a préparé cette édition, vous nous avez dit que vous vouliez évidemment commencer par le prix Fleuret.
Oui, parce qu'on avait Caraïdas qui découvrait, comme tous ses petits camarades, les 4400 mètres. On sait que ça peut changer beaucoup de choses parce que rallonger la distance... Quand on a eu l'habitude de faire 3500 mètres pendant plusieurs mois, 3 ans, et pour la première course, le Duc d'Anjou à 4 ans, ça peut créer des surprises. Là, il n'y en a pas vraiment eu. Caraïdas est parti devant, elle a mené à sa main, elle a un peu fait exploser le peloton, si bien que quasiment tous ses rivaux sont un peu sortis de leur train, et puis après, on commençait à cumuler les fautes, et elle a gagné de 14 longueurs, donc c'est ce qui est assez impressionnant, d'autant que... Maintenant, on la reverra directement dans le groupe 1, où hormis Kadam, qui était absent et qui a été battu par Caraïdas, mais il faisait sa rentrée, tout comme Caraïdas d'ailleurs, mais il faisait sa rentrée dans le Duc d'Anjou. Il était absent là, on devrait certainement le revoir dans le Janssen dans à peu près 3 semaines. Et peut-être Kilomètre illimité, qui était arrivé une petite mésaventure, puisque... Il a fait une faute assez énorme qui a failli entraîner la chute de Florent Bayle. Et d'ailleurs, Florent Bayle a eu les honneurs de Adzi Race et de pas mal de sites anglais pour avoir réussi à rester en selle. Et bon, il a continué la course. Et le cheval, après l'effort qu'il a fait, il est tombé au mur et s'est relevé. Donc, à part ce kilomètre illimité qui est le frère de grandeur nature et potentiellement Kadam, on ne voit pas qui va pouvoir inquiéter.
Et tu penses qu'elle sera aussi percutante sur une piste un peu plus rapide qu'elle ne l'était, pardon, samedi?
Bah, quand elle a fait sa rentrée, le terrain était collant 4-4, mais bon, collant, ça équivaut à un bien souple, on va dire, maintenant, à Auteuil. Pour moi, elle peut être aussi percutante. Maintenant, reste à savoir si Kadam peut aller la chercher, parce qu'il a quand même un drôle de moteur en fin de parcours. Et quand il a gagné, il a souvent eu une cible comme ça devant lui et il est venu la rechercher à la fin. Donc, c'est vraiment le cheval qui, à mon avis, peut être très dangereux, d'autant qu'on sait que son entraîneur rate rarement, lui en tout cas, ses cibles dans les groupes 1.
Très bien. Vous vouliez aussi parler, justement, faire un point sur la génération des 3 ans.
Oui, parce qu'on a eu autant l'an dernier, bon, avec le virus, avec tout ce qui s'est passé, c'était un peu décimé en termes de
Oui.
partants et
La
en termes
saison
de
de
chevaux.
printemps avait été décapitée, oui.
Alors que là, on a plusieurs points intéressants. Bah, déjà, Goliath Duberlet qui a débuté avec ses 3 ans, qui a fait presque un sans faute, avec notamment en tourloupe la fille de Sicalina qui avait gagné le groupe 1 en steeple à Auteuil, qui a gagné vraiment brillamment. On a vu aussi des mâles qui étaient plutôt séduisants, et Beaumec Douwel, bon, lui qui en est à sa deuxième génération, mais qui a sorti quand même beaucoup de chevaux intéressants, notamment Love McDowell qui a gagné hier le Grand Dac. On sait que le Grand Dac possède un palmarès assez impressionnant en termes de chevaux de groupe 1. Et ce cheval-là, au bruit qu'on entendait, apparemment, perdait ses petits camarades de jeu le matin à l'entraînement en route. Donc, c'était assez prometteur pour l'après-midi. Il a semblé un peu perdu toute la route et sur le plat, en 3 foulées, il a dominé le lot très, très facilement. Donc c'était assez impressionnant et c'est assez prometteur aussi pour son père qui démarre fort la saison, sa deuxième saison.
Oui, effectivement. Si on se tourne maintenant vers l'avenir, si je puis dire, samedi, il y a une très belle réunion sur la baie de Porte-Marre avec notamment le Prix Murat, grande préparatoire s'il en est, au Grand Steeple Chase de Paris. Vous nous disiez même que probablement ce serait la meilleure préparatoire cette saison. Est-ce que vous êtes toujours de cet avis avec la présence au départ notamment d'Idées Français, de Grandiose, qu'est-ce que vous...
Pour moi, là,
Le
c'est
lot
vrai
est
que
resserré, par contre.
oui, le lot est très resserré. Il y avait beaucoup de chevaux qui étaient engagés. On savait qu'ils feraient forfait puisqu'ils étaient engagés dans le Lutteur 3 ou alors à Compiègne mercredi. Donc, on savait d'avance que ce serait un peu plus resserré. Et d'autant plus qu'avec Idées Français, il y a certains chevaux qui ont peut-être eu peur de se prendre une course très très dure. À 1 mois et demi du grand steeple, c'est pas une riche idée. Donc, c'est vrai que là, il est français, même avec 71 kilos, sur ce qu'on en a pu en voir le matin à l'entraînement, puisque Noël Georges et Amanda Zetterlund ont publié des vidéos, notamment lui à l'entraînement. Il avait l'air aussi fringant qu'avant Kempton. Et j'ai eu Noël Georges au téléphone qui m'a dit que la piste extérieure, ça lui faisait pas peur, au contraire, ça allait l'avantager vu sa qualité de saut. Donc, ça va être assez intéressant de voir découvrir la piste extérieure face à un cheval comme Jazz Manouche qui a gagné le Clermont-Tonnerre. Bon, après, il restera celui qui aussi a fait assez forte impression, Runtos Ganamos, qui va aller sur le Hingré. Donc, pour le moment, chacun s'évite un peu, hormis Jazz Manouche qui n'évite pas, il est français, mais c'est vrai que voir aussi Saint-Gemme qui doit rentrer lundi prochain à Compiègne. Donc, chacun est un peu dans son coin pour le moment, donc, forcément il va y avoir des démonstrations. Après, le tout sera de savoir lequel va tenir 6000 mètres, parce que hormis Saint-Gemme, personne n'a expérimenté le parcours. Donc ce sera la grande interrogation qui sera résolue seulement le 19 mai.
Saint-Gemme qui aurait dû faire sa rentrée à Royan, il y a eu une histoire un peu étrange avec des problèmes liés à une inondation dans la partie de la piste de trop, je sais pas très bien, mais ils n'ont pas pu quand même courir en obstacle. Ça n'avait pas l'air de faire tellement plaisir au tandem Lagette-Macaire.
Oui, parce qu'on
Ça,
pouvait
ouais.
pas courir au trot, donc du coup, tout a été annulé.
Tout a été annulé parce que ça ne permettait pas de tenir
cela dit,
la réunion.
C'est mieux. Enfin, pour avoir été à Royan justement le week-end dernier, enfin ils ont décidé d'annuler, je pense bien avant que j'arrive, mais il est tombé vraiment des seaux d'eau vendredi et dimanche. Enfin dimanche c'était apocalyptique. Donc si enfin s'il y avait des doutes sur la praticabilité de la piste de galop, enfin lundi à mon avis c'était quand même assez.
Ouais, autant pas prendre de risque avec un cheval de cette qualité.
Ouais, enfin je. C'est quand même des terrains qui sont sur des anciens marais. C'est pas ce qui draine le mieux, quoi.
Merci pour cette petite leçon de géomorphologie, Madame la Royanaise. Je la connais vraiment une experte. Vous nous ferez un.
Non, mais pour une fois que je vais dans le sud, il faisait beau en Normandie, voilà quoi.
Ouais, et ben oui, c'est ça. En fait, c'est la pluie qui vous suit partout.
Ouais, c'est ça. C'est mon côté chat noir.
C'est les gens qui nous apportent le soleil et vous nous apportez la pluie. Merci beaucoup. Merci Christopher pour
merci à vous.
Ce point pour l'obstacle. Merci Franco.
Merci à vous.
À très bientôt. Merci Adeline. Ne baillez pas, n'éternuez pas. Dites-nous simplement au revoir.
Au revoir.
Et ça sera parfait. Merci à tous. Merci pour votre fidélité et on vous donne rendez-vous toute cette semaine dans les colonnes de Jour de Galop et la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Talk de JDG Radio. Et d'ici là, portez-vous bien. Thank you.